Il est 19h21 sur France Inter.
France Inter, le 18-20.
Alors que vient de s'ouvrir au musée d'Orsay à Paris une grande exposition baptisée Le modèle noir de Géricault à Matisse, qui connaît déjà un grand succès, nous allons nous interroger ce soir sur la place des Noirs dans l'art, bien sûr, mais aussi et surtout dans la société en général. Avec cette question, les Noirs sont-ils visibles ou invisibles? On en parlera un peu au passé, mais aussi et surtout au présent, car les occasions de débattre de ce sujet ne sont pas si fréquentes ici en France. On a même un peu tendance dans notre pays à mettre la poussière sous le tapis en brandissant notre universalisme républicain en étendard sur le thème « Nous sommes tous égaux, circuler, il n'y a rien à voir ». C'est oublier un peu vite que la société est diverse, que ses enfants ne sont pas tous identiques et que certains ont du mal à se reconnaître dans les modèles que nous offrent par exemple les écrans de cinéma ou de télévision. Or, ce manque-là est justement la porte ouverte à tous les communautarismes que dénoncent précisément ceux qui prônent un universalisme sans nuance. Alors ce soir, on va parler sans tabou, de ce qui va, de ce qui ne va pas, quitte à poser les questions qui fâchent. Avec nous pour aborder tous ces sujets, quelqu'un qui les connaît par cœur, le rappeur slammer Abdelmalik. Rebonsoir.
Rebonsoir.
Vous êtes resté avec nous et on vous en remercie, Abdelmalik. L'historienne de l'art Anne Lafont, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice de recherche à l'EHESS, membre du Comité national pour la mémoire de l'esclavage, si je ne me trompe, auteur de L'art et la race, l'Africain tout contre l'œil des Lumières, c'est aux presses du Réel. Avec nous également l'historien François Durper. Bonsoir François Durper.
Bonsoir Claire.
Responsable du master éducation à l'université de Cergy-Pontoise, membre du laboratoire Bonheur, c'est ça? À l'université?
Oui, de l'université.
Hein, on en dira un mot tout à l'heure. Auteur chez Albin Michel de Nos ancêtres ne sont pas gaulois contre Histoire de France. Puis il y a beaucoup plus longtemps, on rappelle France blanche, colère noire, c'était il y a quelques années. Ouais. Et puis évidemment, cette émission ne serait rien sans vous tous, alors surtout appelez-nous au 01 45 24 7000.
Claire Servagen. Le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel au standard de France Inter. Jackson est en ligne depuis Chatou, c'est dans les Yvelines, c'est ça?
C'est ça, oui, bonjour.
Bonsoir Jackson, bonsoir. On vous écoute.
Alors, en fait, je vais faire remarquer que nous sommes quelques millions de Noirs dans ce pays, mais nous ne sommes évidemment pas représentés au poste de responsabilité. Alors, vous imaginez le désespoir de tous ces enfants qui naissent dans ce pays, qui sont obligés de s'exiler pour être reconnus dans leur domaine d'excellence. Alors, on voit de temps en temps quelques figures à la télé comme Harry Roselmack, et ensuite ça disparaît, et la nomination de Sibeth Ndiaye récemment comme porte-parole du gouvernement a suscité, mais alors... des insultes, hein, alors c'est presque incroyable dans la France du 21e siècle. Et les pouvoirs publics, j'ai l'impression, ne prennent pas la mesure de cette injustice.
Et c'est quelque chose que vous vivez mal?
Ah bah évidemment, évidemment. Et les gouvernements de gauche comme de droite sont passés sans prendre des mesures fortes, comme on a par exemple imposé la parité entre hommes et femmes sur les listes électorales. Alors ça, malheureusement, c'est comme si ça n'existait pas, alors que c'est un vrai problème. Les quelques Noirs qu'on voit exceller dans ce pays, c'est essentiellement dans des domaines comme le sport, comme pour mieux nous ramener, pour mieux les clichés quoi, habituels. Le Noir, il est bête et fort. Nous savons très bien que ce n'est pas vrai. Alors maintenant, moi j'appelle à une conscience noire. Il faudrait peut-être que dans ce pays, les Noirs votent comme un seul homme, pèsent sur les élections envers un candidat qui prendrait des engagements régler ce problème, remettre de la justice dans ce pays.
Merci Jackson, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de nous dire, il y a des solutions, mais on va peut-être commencer par le constat. Qui veut réagir, Abdelmalik, ce que dit Jackson sur ce manque de visibilité?
Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec le constat de Jackson, mais seulement je pense véritablement qu'il faut prendre le problème rapport à la justice et se dire que... La communauté nationale est diverse et que c'est important que finalement tous les enfants de la République puissent se reconnaître et avoir finalement des modèles où ils se reconnaissent, qui permettent pour qu'ils puissent s'épanouir en tant qu'être. Et la réalité, elle est là. Et c'est vrai qu'il faut véritablement agir dans ce sens-là. Et c'est pas une question de couleur finalement, parce que c'est une question de justice. Voilà.
Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez souvent autour de vous, Abdelmalik?
Ben oui, véritablement, c'est des choses que j'entends assez souvent. Et encore une fois, il l'a dit Jackson tout à l'heure, c'est dramatique dans la France du 21e siècle. On a une histoire, on doit réfléchir de cette manière-là. Et c'est vrai que le fait de se dire, il a dit quelque chose à un moment où il a dit, il faut que j'en appelle à la conscience noire. Non, moi j'en appelle à la conscience universelle, j'en appelle à l'intelligence. Le fait de comprendre que on doit magnifier toutes les composantes de la communauté nationale et tous doivent être représentés et on doit continuer à travailler comme ça, rapport aux imaginaires, pour qu'à un moment donné ça devienne normal.
François Durper.
Ce que dit Jackson, c'est il y a en France des personnes noires qui sont professeurs d'université, qui sont juges d'instruction, qui sont commissaires d'exposition, qui sont avocats, qui sont journalistes, mais on ne les voit pas, ils sont invisibles. Et c'est très important parce que dans les écoles, il y a des enfants qui se reconnaissent ou pas dans les personnalités qui font cette société. Alors, j'entendais une de mes étudiantes la semaine dernière qui dit bah, « Moi, je suis ce qui m'a motivé dans le métier de journaliste, pourquoi je veux m'engager dans le journalisme, c'est Audrey Pulvar, en 2004, qui devient la première femme noire à être présentatrice. C'était à l'époque France 3, et c'était Michel Reynette, le rédacteur en chef, on le salue, qui a pris cette initiative, qui avait l'air de rien, mais qui, des années après, va motiver des enfants à adopter la voie du journalisme. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est effectivement les modèles sportifs. Très bien, Mbappé, alors vous avez dans tous les collèges de France des petits Mbappé, mais s'ils ont aussi l'image bien de juge d'instruction, de journaliste, d'écrivain, de philosophe, eh bien ils vont s'engager, parce que les préjugés les pires, c'est pas les préjugés des uns sur les autres, ça c'est abominable, il y a des associations antiracistes pour ça, c'est les préjugés, les auto-préjugés, les préjugés qu'on a sur soi-même. Je vais pas y arriver parce que je vois des gens qui me ressemblent, mais qui ne réussissent que dans le foot ou que... Non, c'est si on arrive comme ça à casser cette espèce de plafond de verre interne qu'ont les enfants, on va réussir à construire une société pour après qui sera beaucoup plus juste, c'est ce que dit Abdelmalik.
Et on en arrive à la question du modèle. Anne Lafont, vous qui avez travaillé sur cette grande expo au musée d'Orsay, le modèle, c'est vrai pour la vie d'aujourd'hui, c'est vrai aussi pour ces tableaux qui nous viennent de beaucoup plus loin?
Oui, absolument. Je crois que là, c'est tout à fait intéressant de mettre dans le débat et dans la réflexion finalement qu'on peut avoir sur une réalité actuelle. La question du 19e siècle, comme s'illustre finalement l'exposition Le modèle noir de Géricault à Matisse au musée d'Orsay, c'est-à-dire que précisément on a choisi de focaliser, je dirais, l'exposition sur le caractère exemplaire de personnalités noires qui vivaient en France aussi, donc de notre histoire commune en quelque sorte, et qui peuvent donner lieu justement à des relations qui se sont nouées notamment au 19e siècle, mais aussi au début du 20e siècle, dans un cadre un petit peu différent que celui dont on a l'habitude de se rappeler. Et je crois que précisément, alors que c'était un titre qui posait question dans les premiers temps de la préparation de cette exposition, le caractère exemplaire, hein, et je dirais même normatif qu'il peut y avoir derrière la notion de modèle, s'est avéré d'autant plus stimulante. Et lorsqu'on va à l'exposition, on voit la diversité des modèles, mais le caractère justement inspirant qu'il peut y avoir justement dans ces personnalités qui sont représentées par des grands artistes français du 19e siècle.
Et il paraît qu'on voit aussi la diversité du public. Ça, c'est Isabelle Pasquier qui travaille au service culture de France Inter qui m'a alertée sur ce point. Il y a une diversité du public qu'on ne voit pas forcément dans les autres expositions. Vous avez eu des retours à ce sujet, Anne Lafont?
Oui, c'est assez flagrant. Je dirais même dans les premiers jours du vernissage, pour en faire quand même quelques-uns par mon métier, il y avait une diversité beaucoup plus grande en termes de représentation du public. Je crois aussi que tout l'engagement du service éducatif qui a fait aussi une exposition, notamment à partir des écoles, de collèges, de lycées, de Paris et de régions parisiennes qui sont en réponse finalement aux tableaux les plus importants de l'exposition, apporte beaucoup aussi un autre public pour cette exposition. Et d'ailleurs, il semble que les réservations des scolaires soient déjà extrêmement bien engagées pour l'exposition. Donc il y a non seulement diversité des publics assez traditionnels, engagement des scolaires, mais aussi une réponse contemporaine d'artistes en herbe, en quelque sorte.
On repart au Standard de France Inter. Pierre, cette fois-ci, est en ligne de Toulouse. Bonsoir, Pierre.
Bonsoir.
Bienvenue à vous, on vous écoute.
Merci. Donc voilà, je voulais donner un petit exemple. Donc moi, j'ai 50 ans maintenant. Je suis, à la base, je suis un ch'ti. Donc j'ai grandi, moi, avec Goldorak, des Cornflakes, Dorothée, tout ça. Et régulièrement, j'avais le droit à cette chose, alors que je suis un petit Français. Je suis un petit Français, j'ai toujours vécu en France. J'avais le droit au fait qu'on me ramenait. Oui, mais toi, tu es d'où ?
Parce que vous êtes noir, Pierre.
Parce que je suis noir.
Mais vous ne nous avez pas dit, c'est pour ça que je vous pose la question, et en radio, ça se voit pas.
C'est vrai ?
Ça s'entend pas, et ça s'entend pas non plus.
On voit la radio maintenant. Et donc j'ai imposé un moment. J'ai imposé un moment le fait de dire ben moi je suis ch'ti, moi je suis d'ici et tout. Les gens insistaient là-dessus. Oui, mais tu es d'où ? Ouais, mais tes origines et tout. Oui. Et à un moment, je me suis dit stop. Il y a cette grille de lecture qu'on essaye de m'imposer par l'autre en me disant t'es différent, donc t'es d'ailleurs. Non, je suis d'ici et c'est tout. Ça vous plaît, c'est comme ça. Et le fait d'inverser, ça change énormément de choses. Et l'exemple que j'avais donné au standard, à votre standardiste, c'était moi la plus belle réponse que j'ai eue par rapport à l'identité, c'est Dany Laferrière qui me l'a donné. Vous tapez sur Google écrivain japonais, vous tombez en premier sur Dany Laferrière.
Qui a écrit Je suis un écrivain japonais.
Qui a écrit Je suis un écrivain japonais, haïtien, qui a vécu au Canada, aux États-Unis, qui est aujourd'hui à l'Académie française. Mmh. C'est-à-dire que la question d'identité, il a réussi à inverser ça, à dire stop. Vous n'allez pas m'imposer le fait que je suis ceci, donc je dois représenter cela, donc voilà ceci, cela. Et si j'arrive à inverser ça, il y a énormément de choses qui se libèrent. Et même chez les jeunes, même chez des artistes, chez plein de gens, ou pas uniquement chez les artistes, dans plein de domaines, on se rend compte qu'on peut inverser ça. Juste inverser cette grille de lecture, et ça change énormément de choses, surtout au niveau de ce qu'on peut être dans les ressentis et tout ça, parce qu'il faut sortir... de l'opposition, ces oppositions où ça devient trop politique, ou parfois même on tombe dans de la folie. Moi, quand je vois ce qui s'est passé à la Sorbonne, où on vient interdire une pièce de théâtre par une ligue anti-négrophobie, on marche sur la tête à un moment. On se trompe d'ennemi, on sait plus où on va parce que on devient esclave de la représentation. Mais... c'est extrêmement important de pouvoir inverser, de mettre d'autres lignes de lecture pour imposer justement aux gens qui ont besoin de vous enfermer dans un carcan, c'est eux qui peuvent avoir un problème, c'est pas vous. Moi, j'ai pas de problème d'être noir, c'est des gens qui ont un problème dans leur représentation et qui se débrouillent avec.
Merci beaucoup, Pierre, pour ce témoignage. On dira un mot de cette question des spectacles tout à l'heure, mais peut-être d'abord sur cette assignation à identité. Abdelmalik, vous, l'Alsacien, ça vous arrive régulièrement qu'on vous demande d'où vous venez, c'est ça ?
Ouais, ça m'arrive régulièrement.
Peut-être mais pas maintenant parce que vous êtes archi connu, mais bon.
Quand même. Mais qu'importe. Ce qui est important, c'est ce qui a été dit là. C'est il y a quelque chose qui est lié finalement au regard et à la déconstruction d'un certain regard. Et c'est en ce sens-là où l'exposition le modèle noir de Jericho Amati, c'est hyper important parce que on est en train de se dire ok, il y a toute une idéologie liée au colonialisme, à l'esclavagisme, etc., où on a voulu qu'on porte un regard, en tout cas sur l'altérité, sur le noir autre, pour l'inférioriser et montrer que le blanc effectivement c'était lui, etc., etc. On connaît ces histoires là, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui au 21e siècle, notre travail à tous, c'est de déconstruire ce regard négatif, travailler les imaginaires justement pour qu'on se rende compte qu'on parle véritablement d'égalité et que finalement qu'on soit noir, blanc, vert, jaune, on est des êtres humains. Et ça, c'est un travail sur les imaginaires. Et c'est en ce sens-là où nous autres artistes, on a peut-être une place importante, où tout d'un coup la manière dont on représente, la manière dont on s'exprime, les films qu'on fait, les pièces de théâtre, les livres qu'on écrit, etc., participent à changer positivement le regard finalement sur l'autre et à réfléchir sur ces notions de d'égalité et à sortir finalement d'une pensée qui est vraiment une forme qu'on peut appeler racialisation réellement.
Il y a une génération, dont parle Pierre, qui réclame ce droit, non pas à la visibilité, mais à l'invisibilité et à l'indivisibilité, pour prendre le nom de l'association, les indivisibles. Regardez l'anecdote après la victoire de la France à la Coupe du Monde. Vous avez un tweet d'un site sportif qui met les origines en face de chaque joueur. Alors avec beaucoup de bienveillance pour dire, ils sont tous d'origine différente, mais ils sont dans l'équipe de France. Et puis il y a Benjamin Mendy qui est membre de l'équipe de France qui retweet et qui met face à chaque nom le drapeau français. Parce que finalement, qu'importe pour cette génération que Kipembe Matuidi soit d'origine congolaise, que Pogba soit d'origine guinéenne, Mbappé d'origine camerounaise, ou Dembélé d'origine mauritanienne, ou etc., etc. Ou Kanté d'origine malienne. Alors, peut-être au Mali, on peut être fier que Kanté soit d'origine malienne. Mais eux se disent, nous sommes l'équipe de France. Donc vous voyez, même ceux qui portent le drapeau, ceux qui ont le coq sur le maillot, même eux, au moment où ils gagnent la Coupe du Monde, ça fait que deux fois dans l'histoire du foot français, assignation à résidence. Alors, évidemment, pour dire, bon, il y a 19 joueurs sur 23 qui sont d'origine africaine, donc on veut bien faire. Mais Benjamin m'a dit, non, vous ne faites pas bien. Parce que la plupart du temps, quand on est visible, c'est au logement. Quand on est visible au logement, ben, ça se termine toujours très mal. Quand on est visible pour la recherche d'emploi, ça se termine toujours très mal. Donc, il y a ce droit à l'invisibilité que réclament les nouvelles générations.
Mais comment on y arrive ?
En décolonisant les regards.
Et même en les décolonialisant. Vous savez que dans la langue anglo-saxonne, l'anglais, vous avez « decolonialization ». Pas seulement décoloniser, ça a été fait, 1960, très bien, indépendance juridique, mais en faisant sortir des têtes le colonial.
Et c'est en ce sens-là où je parlais tout à l'heure du travail des imaginaires. Et la réalité, c'est qu'il y a un processus qui est ce processus de la racialisation où on est assigné à identité fixe et où on dit finalement que je suis noir, donc voilà mon champ des possibles, je suis blanc, voilà mon champ des possibles. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure, François, par rapport au regard qu'on porte sur soi, mais finalement, où on s'infériorise d'une certaine manière parce qu'on est noir, mais il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire le complexe de supériorité, où on va voir l'autre en inférieur, et que ça va être naturel, ou même les gens ne sont pas nécessairement mal intentionnés. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre le racisme et le racialisme d'une certaine manière, parce que le racisme, on sait, c'est bête et méchant, mais d'autres, c'est des réflexes qui sont ancrés profondément, et on doit travailler à éradiquer ces réflexes, ce sont des réflexes négatifs.
Comment on évolue, Anne Lafont, sur ce sujet?
Moi, j'ai peut-être un point de vue un petit peu décalé par rapport à ça. D'abord, j'essaye de ne pas penser par slogan, donc c'est vrai que la question de la déconstruction du regard, si la notion de décoloniser les regards effectivement s'inscrit dans ces formes de déconstruction, pourquoi pas. Après, moi j'ai tendance à croire aussi au bénéfice de l'instruction, c'est-à-dire que de connaître, de ne pas avoir non plus qu'une vision enchanteresse, ou de ne pas être seulement en se projetant vers des possibles effectivement portés par les artistes de nouvelles sociétés qui fonctionneraient autrement. J'aime bien l'idée aussi de bien connaître le passé, c'est-à-dire repasser à travers aussi des constructions, justement, notamment imaginaires ou visuelles, qui peuvent être très troublantes. Enfin, on a eu beaucoup de discussions au sein de l'exposition sur la place que devait avoir la violence coloniale aussi. Je veux dire, c'est quelque chose qui me semble, doit être aussi présent et instruit. C'est-à-dire que ça n'est pas seulement faire table rase du passé pour inventer quelque chose qui serait vraiment exempt, finalement, du racisme, parce qu'on aspire tous à ça. Mais pour moi, ça passe par l'histoire. Alors, ça dépend un peu des points de vue, et puis quand j'entends un artiste, évidemment, il est projeté vers l'avenir, je le comprends tout à fait. Moi, dans ma démarche de chercheuse et d'enseignante, c'est d'aller, de retourner précisément dans l'histoire et ses formes complexes, finalement, et aussi de racisme.
Une petite précision quand même à propos des pièces de théâtre, parce que Pierre l'a évoqué dans son intervention, c'est cette pièce qui était jouée à la Sorbonne. Il y a eu des militants qui ont contesté l'utilisation de masques sombres, qui faisaient référence à Blackface. Qu'est-ce que vous en dites-vous?
Oui, moi, ce que j'en pense, je vais vous dire, je vais être assez rapide sur la question. Moi, j'aime bien parler des choses que je vois. Donc, j'aime bien que les choses aient lieu et pouvoir me faire un point de vue à partir de ce que j'ai vu, ce qui n'est pas le cas là, puisque ça a été empêché. Pour moi, le procès d'intention n'est jamais tellement fécond. Ça aide pas à réfléchir. Qu'il y ait des avertissements, qu'il y ait une prise de parole autour, une contextualisation qui avertit. Je ne suis pas sûre que toutes les formes de mascarade soient des blackface. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais je je n'ai pas vu la pièce, donc je me garde vraiment d'avoir un point de vue arrêté là-dessus.
Donc on va en rester là pour ce sujet. On repart au Standard de France Inter. Cette fois, Sophie nous appelle du 1er arrondissement de Lyon. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter.
Merci beaucoup. Je suis touchée de parler en présence d'Abdel Malik, voilà, et puis des autres invités. Merci aussi. Beaucoup. Moi, je voulais vous parler de mon vécu, en fait. J'ai été mariée pendant 8 ans avec un Congolais et je n'ai jamais autant été arrêtée par la police. Voilà, donc je voulais vraiment... j'ai l'impression qu'on ne peut pas comprendre si on l'a pas vécu, en fait. Au point que quand j'ai attendu un enfant, j'ai espéré que ce soit une fille parce que je trouvais que c'était trop dur pour un garçon métis en France. Et j'ai eu une fille d'ailleurs. Et ma théorie, c'est que quand on est noir, il faut être très beau ou très intelligent, sinon on n'a pas d'avenir en France.
Et si on ne l'a pas vécu, les autres ne le croient pas, c'est ça ?
Ben, moi, j'ai vraiment compris en vivant. C'est-à-dire, j'ai été vraiment poursuivie par la police de partout. Dès qu'il y avait la police, on a été arrêté. Quand je dis poursuivie, c'est parce qu'une fois, j'ai un peu tenté le diable. J'allais voir mon père dans le Vercors et il y avait la police et moi, je connaissais très bien. J'ai jamais vu la police dans le Vercors, donc j'ai accéléré un peu pour voir où ils allaient, jusqu'à ce que je m'arrête devant chez mon père et qu'ils me disent « Qu'est-ce que vous faites là ?» Ben, je dis « Je vais voir mon père. » Vous voyez, j'ai tenté un peu le diable parce que vraiment, j'en avais marre. On s'est fait arrêter de partout. Et c'était incroyable. C'était un cauchemar. Et pour ça, les noirs sont visibles. Par contre, moi, blanche, j'ai jamais été arrêtée. Je vivais aux Minguettes, je n'ai jamais été arrêtée, sauf pour un phare cassé. Mais jamais. C'est pour moi, ça m'a mis vraiment très très en colère. Je pense qu'on est loin de sortir du regard que vous disiez Colonel Lief. J'arrive pas à le dire tellement ça m'énerve.
On a tout compris, Sophie. Un très grand merci pour merci vous, pour ce témoignage, Abdel Malik.
Ben voilà, c'est là on est dans la vie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire on peut théoriser, on peut dire ce qu'on veut, mais là concrètement on est dans la vie et évidemment ça m'a fait penser à une histoire encore plus dramatique. C'est puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, je me dis qu'un Adama Traoré par exemple, s'il avait pas été noir et s'il venait pas de quartier populaire, eh ben peut-être qu'il serait encore là. Et c'est ça qui touche et c'est ce qui fait mal. Et c'est en ce sens-là. Mais je pense, et encore une fois, et là je te rejoins véritablement, c'est que si on a vraiment envie de régler cette problématique, de toute façon, on doit réfléchir de manière, j'ai envie de dire, on doit célébrer la complexité, on doit réfléchir avec intelligence, calme, on doit être posé, on doit inscrire ça dans un mouvement lié à l'histoire, etc. Un exemple, j'amène mon fils à l'exposition, le modèle noir, et il me dit un truc, et ça m'a bouleversé. Il me dit, mais en fait, parce qu'il y a des choses difficiles, il y a des choses belles, enfin, il y a tout, mais il me dit, lui, ce qu'il me dit, il me fait, mais en fait, on est là depuis longtemps. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que l'histoire des Noirs en France, elle commence pas avec la problématique migratoire qu'on vit aujourd'hui. Il y a une longue histoire. Et c'est important, ça. C'est important, toujours dans cette dynamique de ce qu'on disait tout à l'heure, de faire peuple. Et pour qu'on puisse faire véritablement peuple, il faut néanmoins qu'on soit pacifié et qu'on ait un débat pacifié pour justement pouvoir faire avancer positivement les choses et ramener à la notion essentielle qui, de mon point de vue, est la justice.
Et Anne Lafont, le fils d'Abdel Malik dit on est là depuis longtemps et encore l'exposition ne remonte pas à Mathusalem.
Oui,
hein,
absolument.
Absolument. C'est important de le dire.
Non,
ça.
Absolument, ça pourrait aller beaucoup plus loin. Enfin, on a de toute façon les contacts. Enfin, le continent africain et le continent européen sont seulement séparés par un détroit, donc c'est extrêmement facile. Les circulations de population datent de très longtemps. Non, je voulais juste dire un mot, peut-être si vous le permettez, autour du témoignage de Sophie. J'ai trouvé ça tout à fait intéressant qu'elle dit maintenant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas l'imaginer. Ça, ce sont des choses que j'ai ressenties aussi, la difficulté de partage de cette expérience tout au long de ma vie. Mais plus que ça, je voulais pointer un film qui l'a très bien relevé, qui est un film un peu ancien de Spike Lee, qui s'appelait Jungle Fever, où on a justement un couple mixte, temporaire, puisque finalement le personnage noir principal reviendra avec sa femme noire après, mais il a une aventure avec une femme blanche et qui se montre très 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 agacée, indignée par la manière dont les policiers traitent à un moment donné le personnage noir qui est donc son compagnon temporaire, et elle tente d'intervenir et lui la remet un peu en place en disant ne t'en mêle pas parce que tu vas aggraver les choses. Je veux dire, il y a quelque chose effectivement qui, lorsqu'on l'éprouve un peu dans sa chair ou dans ses proches, qui peut être vraiment générer une très très grande indignation, qu'on soit noir ou blanc.
François Durper, sur cette cette question des discriminations. Alors, on va pas sortir les grands mots, mais quand même une question. On sait qu'il y a des contrôles aux faciès. La France, l'État a même été condamné pour ça par la Cour de cassation. Est-ce qu'on peut parler de racisme d'État en France? Le défenseur des droits pointe régulièrement ce genre de discrimination. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Vous qui connaissez par exemple les États-Unis, très bien.
Le racisme n'est pas comme aux États-Unis, comme il l'a été aux États-Unis, n'est pas déjuré, c'est pas inscrit dans la loi. Ce dont on parlait à l'instant, vous savez que jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême Loving versus Virginia, jusqu'à 1967, eh bien dans un certain nombre d'États aux États-Unis, le fait même de se marier entre noir et blanc vous valez de la prison ferme. Ça n'existe pas en France.
C'est pas institutionnel.
Hein. Mais le fait est que on fait pas une émission sur être blanc en France. Vous avez la possibilité d'avoir un emploi, mais vous pouvez ne pas en avoir parce qu'il y a du chômage. Mais c'est pas parce que vous êtes blanc que vous n'avez pas d'emploi, ou c'est pas parce que vous êtes blanc que vous n'avez pas de logement. La réalité, c'est ce que disait Aimé Césaire, si vous ne comprenez pas l'humiliation, si vous ne comprenez pas la ségrégation, la discrimination, vous ne pouvez pas comprendre l'expérience de la négritude. Et pour le coup, la négritude n'existe pas en Afrique, où Olesso Inca le dit, le tigre ne revendique pas sa tigritude, il n'y a pas d'expérience du noir c'est la discrimination, et pour le coup, ça n'efface pas la différence entre un Antillais qui vient par le binôme ou qui vient comme étudiant en Afrique. Et après, c'est le regard de l'autre. Voilà, je reviens comme chaque semaine de chez mon coiffeur. Et chez mon coiffeur, donc c'est à Château d'Eau, si vous êtes blanc et que vous rentrez chez mon coiffeur, vous voyez des noirs. Mais si vous êtes Antillais, vous voyez des Africains. Si vous êtes Africain et que vous êtes Sénégalais, vous constatez qu'il y a quasiment que des Congolais dans mon
Et vous, en tout cas, vous êtes le seul blanc dans ces
salons. Et moi,
dans
je suis un peu le seul blanc. Moi, je suis le sociologue qui regarde et qui prend des notes. Non, ça veut dire que c'est dans le regard de l'autre. Mais qu'il y a une expérience de la négritude qu'on retrouve en Amérique du Nord, qu'on retrouve parfois dans des sociétés où les Noirs sont majoritaires, mais où ils sont une minorité sociale et économique, et là c'est pour le coup quand même un paradoxe, on le retrouve par exemple dans les Caraïbes françaises. Et puis il y a cette invisibilité qui fait que, regardez, juste une anecdote très simple et très rapide à dire, on a fait là le grand débat, on sort du grand débat. Le seul grand débat qui n'ait pas été retransmis dans son intégralité par les chaînes info, sauf France Info, quel est-il? Le débat entre Emmanuel Macron et les maires d'outre-mer. On ne sait pas pourquoi. En rédaction, on ne connaît pas de journaliste raciste. Ça n'existe pas, un journaliste qui vous dit parce qu'ils ne sont pas racistes. Alors pourquoi?
Et c'est pas la disparition de France O sur la TNT qui va arranger les choses. Hein.
C'est ce que j'allais dire.
Voilà. D'accord. C'est France O, c'est une chaîne passerelle en quelque sorte, et ça coûte pas très cher, mais l'occasion est là de dire que France O, ben vous avez un métropolitain qui tout d'un coup tombe sur France O et qui découvre le journal de Guadeloupe Première, ce qui se passe en Guadeloupe, et il découvre que sa France n'est pas un hexagone mais un polygone fait de plein de territoires.
Michel nous attend au standard. Il est à Paris. Il est au bout du fil. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors, je voudrais d'abord commencer par un témoignage. Ma femme est blanche, donc moi je suis noir d'origine africaine. Chaque fois que j'arrive à Roissy, quand on a fait un voyage, mais à Orly, ce qui se passe, c'est que systématiquement, les douaniers me demandent d'ouvrir mon sac pour savoir si je n'ai pas quelque chose qui ne devait pas rentrer en France. Donc il y a quelque chose de, comme l'a dit le témoignage de la dame qui a appelé, si on ne l'a pas vécu, c'est vraiment très difficile. Je comprends bien que Abdelmalik dise que ce n'est pas qu'un problème de couleur de peau, mais là, moi j'habite dans des beaux quartiers, et quand je reviens systématiquement en France, j'ai la peur au ventre parce que je sais que les douaniers vont me demander d'ouvrir mon sac. Et sinon, François Durpin, qui connaît bien les États-Unis, quand on est aux États-Unis, on allume la télévision, on voit vraiment la diversité culturelle. C'est-à-dire que on voit les Noirs, on voit les Blancs, on voit les Asiatiques à la télévision. Vous allumez France Télévisions, il n'y en a pas. Donc, il y a un problème quand même de couleur de peau. C'est pour ça que moi, je me disais, est-ce qu'il ne faut pas passer par une loi? Il ne faut pas passer par des systèmes de quotas? On peut écrire tous le roman national, le récit national actuellement, en respectant ces diversités-là, en les montrant. Ça ferait la valeur de la France. Voilà ce que je voulais dire.
Mais merci beaucoup pour ce témoignage, Abdelmalik.
Ouais, je voulais dire, évidemment, le fait d'être noir, il y a la problématique, on parle de ça. Mais ce que je veux dire, c'est par exemple... La personne qui vient de parler a donné l'exemple des États-Unis. Il y a la diversité aux États-Unis, mais ça n'empêche pas que Trayvon Martin, ça n'empêche pas qu'on tue des Noirs parce qu'ils sont Noirs, etc. Mm. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et le beaucoup plus loin, c'est la justice. Mm. C'est le fait de légiférer. C'est le fait de prendre des positions claires. C'est le fait d'avoir des attitudes claires, d'enlever toute ambiguïté. Que celui qui... que ce soit la tête de l'État, les gens qui représentent les différents partis, c'est là, en fait, qu'on doit y aller véritablement et concrètement. Après, des histoires individuelles, il y en aura, on va dire telle ou telle chose, mais à un moment donné, si on légifère pas vraiment, si on va pas dans cette démarche concrète de faire peuple, en disant voilà, ça on ne peut plus faire ça, ça c'est pas toléré, etc., etc., les choses ne bougeront pas et on va continuer à parler comme ça.
La comparaison avec les États-Unis, elle est bonne, François Durper, là-dessus?
C'est difficile, c'est très difficile de comparer les deux sociétés parce qu'effectivement, il y a eu cette ségrégation inscrite dans la loi qui fait que quand Martin Luther King en 1963, dans ce fameux discours I Have a Dream, réclame un avenir où on ne voit pas la couleur de la peau de ses petits-enfants, dans le même temps, il négocie avec Lyndon Johnson ce qu'on appelle affirmative action, c'est-à-dire le fait d'inscrire dans un décret présidentiel, eh bien, ce qui s'appellera plus tard les quotas, et puis finalement il n'y a pas vraiment de quotas parce qu'il y a un autre arrêt de la Cour suprême qui les interdit. Mais le fait de faire attention à ce que dans toutes les institutions on fasse rentrer la diversité, c'est pas transposable dans la France universaliste qui se pense comme indivisible,
qui n'a pas de statistiques ethniques, qui ne catégorise pas.
En revanche, il y a quelque chose qui est transposable, et c'est ce qu'on a dit à plusieurs reprises. C'est la question de l'éducation. C'est-à-dire que la déségrégation aux États-Unis, elle est partie en 1954 de cet arrêt de la Cour suprême qui déségrègue les écoles, qui dit c'est pas possible, on peut pas faire des écoles d'un côté de noirs, de l'autre côté de blancs, parce que cette société ne peut pas tenir comme ça. Aujourd'hui, vous avez des chercheurs, Georges Feloussis par exemple dans l'Académie de Bordeaux, qui montrent que 10% des collèges concentrent 40% des enfants d'origine africaine. Vous avez une ségrégation qui fait que ceux qui sont aujourd'hui discriminés. Alors, je vais dire quelque chose et on va avoir un afflux de messages au standard en disant c'est scandaleux. Ceux qui sont discriminés sont ceux qui ont de la chance d'envoyer leur CV à des employeurs, de pouvoir... Tous les autres, ils ont été réorientés en fin de troisième, réorientés en fin de seconde. Et le système scolaire est tellement ségrégué, aujourd'hui est devenu tellement ségrégué, de facto, pas de iure, mais ça change pas grand chose pour quelqu'un qui n'a pas d'avenir, qui a une moyenne et qui se dit de toute façon, j'ai pas cet avenir-là, parce que ce système éducatif qui est pourtant, par certains côtés, très égalitaire, mais on n'a pas fait beaucoup de progrès depuis Bourdieu. Bourdieu, il disait la reproduction, vous vous rappelez de ce livre de 1970, sauf qu'on a juxtaposé maintenant une ségrégation qui est sociale à une ségrégation qui est maintenant ethno-culturelle.
Alors là, je voudrais qu'on prenne Johanna, je ne sais pas, qui est à Nanterre. Bonsoir à vous.
Bonsoir tout le monde, c'est bien Johanna.
Johanna.
Mon intervention va rejoindre un peu plusieurs choses qui ont été dites auparavant. Vous parliez de négritude, moi c'est un terme qui est très fort pour moi. Je suis née en Guadeloupe, j'y ai grandi jusqu'à mes 18 ans, je suis venue en métropole pour mes études. Et c'est vrai que j'avais été frappée par ce fonctionnement où beaucoup de chefs d'entreprise sont blancs, alors qu'on est dans un pays où il y a majoritairement des noirs. Et je pense que c'est ça qui m'a frappée très jeune et qui a fait que j'ai très vite pris conscience que, en tant que noire, si je voulais progresser dans la société, fallait que je trouve un équilibre entre ce que j'estimais être ma culture maternelle et le fonctionnement en métropole. Et je disais hors antenne que c'est un petit jeu que j'ai souvent de regarder des films, des pubs et de constater qu'il n'y a jamais de noir dans les pubs de luxe, les pubs pour les dernières Mercedes, etc. Et ça m'oblige, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai, que je dois être tout le temps dans la progression sociale, accéder à un poste de responsabilité pour être un exemple pour les autres. Et pour leur dire, ok vous êtes noir, mais vous pouvez être chef, vous pouvez être dirigeant, vous ne devez pas vous limiter en vous disant que je dois rester à des postes subalternes parce que je suis noire et que de toute façon c'est pas pour moi.
Merci. Oui, voilà. Johanna, merci beaucoup pour ce témoignage, Anne Lafont.
Oui, ben, je pense que ce qu'on ressent fortement de la part de Johanna, c'est une ambition de diversification finalement des modèles et justement d'ouverture des champs des possibles. Et je crois que là, vraiment, étrangement, il y a un double mouvement qui vient de l'exposition. Non seulement on a retrouvé beaucoup plus de tableaux avec des figures noires dedans qu'on ne le croyait au départ, c'est-à-dire que ceci existe effectivement dans le temps et dans l'histoire, comme l'a dit Malik tout à l'heure. Donc il est possible de les faire revivre en les ressortant de terre et en les exposant. Mais en plus, il y a une... quand je parle de double mouvement, c'est-à-dire que l'effet même de les présenter au sein du musée d'Orsay, donc un grand musée des beaux-arts central, etc., fait écho différemment au fait de les présenter dans des cadres différents ou dans d'autres types d'institutions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi... Il y a la quantité, certainement. Bon, elle est relative. On ne peut pas inventer des tableaux du 19e siècle qui nous donneraient des idées. Mais il y a aussi les modalités de travail autour de ces objets-là qui permettent en quelque sorte d'ouvrir justement un avenir qui serait un peu plus diversifié pour nous aujourd'hui.
Alors, on a plein de questions qui nous arrivent aussi sur franceinter.fr, sur l'application France Inter. Je vais vous les livrer, on a encore quelques minutes. Raphaël Parmel qui nous dit « Petite question d'ordre sémantique, la couleur de peau n'étant pas une nationalité, je me refuse en tant que traductrice à mettre une majuscule. » Aux couleurs de peau, qu'en pensent vos interlocuteurs? Je ne sais pas.
En tout cas, ne jamais... De toute façon, la question ne se pose pas, puisque on est bien d'accord qu'on ne va pas dire les noirs ou les blancs, mais des personnes noires et des personnes blanches. Hein, puisque c'est une qualité... La couleur de peau compte sur le plan sociologique, mais ne peut pas faire l'entièreté d'un individu. C'est impossible.
En tout cas, on a utilisé le mot noir ce soir. Certains ont du mal avec le mot noir, Abdelmalik.
C'est incroyable, je trouve. Moi aussi. Je trouve que c'est incroyable. Il y a quelqu'un qui me parlait, qui m'a dit les personnes de couleur. Je me suis dit, mon Dieu, là on est dans les années 60, je ne sais pas, on est où, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu peux dire un noir, il n'y a aucun problème. Et la personne a rougi un peu, mais voilà, il n'y a aucun problème.
Ah, parce qu'elle appartenait à la race rose.
Non, mais c'est même pas...
Mais c'est pour en rire, parce qu'en fait, on est quand même, comme tu le dis, dans une histoire de racialisation.
C'est ça, c'est ça. Et c'est ça la problématique, elle est là. Moi, en réalité, au risque d'être redondant, moi, ces petites choses, N majuscule, N... Moi, je veux la justice, la vraie justice, c'est-à-dire la loi avec... voilà, c'est ça que je veux. Et c'est ça qui va faire vraiment avancer les choses, et l'éducation, et le savoir, et la complexité. Voilà.
Andy, sur Twitter, tant que l'histoire des Noirs et de l'esclavage sera autant bafoué, caché comme la poussière sous le tapis, les racistes et autres ignorants auront toujours voix au chapitre. Vous êtes d'accord?
Tout à fait.
Anne Lafont, vous partagez ce point de vue?
Absolument.
Il y a un travail
ça me fait penser
à faire de ce côté-là?
Oui. Et par exemple, à la commission, on peut s'inspirer de ça.
Pour la mémoire de l'esclavage, c'est ça?
Non, la commission, non, c'est pas. J'allais un petit peu plus loin. à la suite de l'apartheid, de vérité et réconciliation. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut regarder les choses en face pour pouvoir se réconcilier et faire histoire commune.
12 ans avant Waterloo, la bataille de Vertières, les Haïtiens battent Napoléon, totalement absent des manuels scolaires. 12 ans, on apprend encore dans les manuels scolaires, la grande défaite de Napoléon, c'est Waterloo. 12 ans avant, des gens qui ne voulaient pas redevenir esclaves ont battu la grande armée.
Une question peut-être pour vous, François Durper, Stéphane par mail qui nous dit « Je suis noir, d'origine camerounaise, enseignant, et je m'étonne toujours d'être au sein même des formations proposées par mon rectorat, l'un des seuls noirs. En début d'année, les élèves sont toujours surpris de voir que leur enseignant de lettres et d'histoire est noir. C'est la même chose lors de mes sorties culturelles. »
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'importance de l'éducation, l'importance d'entrer. Et c'est vrai que comme formateur alors moi, pour le coup, je forme les conseillers principaux d'éducation. Et là, c'est un petit peu différent parce que dans les conseillers principaux d'éducation, c'est un peu plus diversifié. Mais on le retrouve encore dans les filières d'études. Eh bien, ces filières d'études, elles sont encore malheureusement racialisées. Ça veut dire que le problème, il est vraiment à prendre en amont, de proposer aux élèves et très très tôt l'ensemble des métiers, l'ensemble des possibles pour tout à chacun.
Penda sur Twitter, femme noire et fan de fiction, je déplore l'effacement de l'individu dans la fiction télé en France. Les clichés sont si forts que c'est dans la fiction US que nous trouvons des personnages complexes. Qu'est-ce que vous en dites, Anne Lafont?
Oui, alors, bon, faut pas faire trop de raccourcis. J'ai pas vu toutes les séries, mais je pense que c'est assez juste. Enfin, on trouve effectivement beaucoup plus de modèles. Je pense aussi que, enfin, la surface de population et le ratio blanc-noir aux États-Unis n'est pas le même que celui en France. Ouais. Et qu'il va falloir en inventer un pour la France aussi, et pas toujours avoir les
les yeux rivés vers les États-Unis pour ça.
Ouais, totalement. Et puis ces histoires d'imaginaire, c'est-à-dire travailler sur la fiction, travailler sur toutes ces choses-là, pour que justement, lorsque l'enseignant noir arrive, on soit pas les, que personne soit étonné. C'est que ça fait, c'est quelqu'un, c'est un Français qui fait partie de la communauté nationale. Il se trouve qu'il est noir, mais on s'en fiche. Il peut être vert, jaune, rouge.
Alors,
et travailler donc sur les imaginaires et les symboles.
Eh ben, ça va être le mot de la fin. 10 secondes, François Durper.
Le ratio de noir en France est moindre qu'aux États-Unis si on exclut, comme on le fait tout le temps, l'outre-mer. On n'est pas obligé de le faire.
Absolument, et on a d'ailleurs Agathe hein, sur Twitter qui nous dit merci de ne pas oublier que la France ne se limite pas à la métropole. Hein. Ça, c'est effectivement très important. J'ai 10 secondes pour vous remercier tous les trois d'être venus ce soir. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Abdelmalik, merci d'avoir passé ces 2 heures avec nous. Je rappelle Le Jeune Noir à l'épée, c'est chez Flammarion, livre disque. Merci Anne Lafont, rendez-vous au musée d'Orsay, c'est jusqu'au mois de juillet, c'est ça?
Absolument.
Merci François Durper, nos ancêtres ne sont pas gaulois. Hein. C'était important de le rappeler. Et merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Ils se reconnaîtront. Il est 20h sur France Inter.